Très bien. Alors, j'avais juste à cœur de partager quelques points, quelque chose que j'ai senti vraiment le Seigneur mettre sur mon cœur alors qu'on préparait cette journée de baptême. Ça va, tout le monde va bien ? Vous êtes très sage, très. C'est peut-être parce que les enfants sont partis, du coup, ça fait l'atmosphère est très calme. Mais c'est bon, on aime les enfants. Hein, je veux dire, il y a les enfants, ça veut dire qu'il y a de la vie. Et puis, on parle de liberté. Eux sont libres. Eux, ils nous montrent quelque part l'exemple en étant capables de danser comme ça, sans se soucier quelque part du regard des autres. Alors parfois, il faut faire un petit peu attention. Il y a des petits risques de blessures. Mais en tout cas, c'est quel privilège, même s'il y a du bruit et tout, de pouvoir vivre ces temps en famille comme ça avec les enfants. Et écoutez, je vous propose de prier pour commencer cette avant-dernière partie de cette journée. Seigneur, vraiment merci. On ne se lasse pas, Seigneur, de te prier. On ne se lasse pas de te remercier. Parce que, en fait, Seigneur, c'est ce qu'on va faire toute notre vie. Et même pour l'éternité, on sera dans ton ciel de gloire et on va t'adorer. Donc, c'est tout naturel que déjà aujourd'hui, on prenne plaisir à te louer, t'adorer, te remercier, être dans ta présence, te prier, te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes reconnaissants pour ce baptême et l'image de ce salut et l'image de cette délivrance que tu rends disponible pour chacun de nous. Alors, sois élevé, sois glorifié encore, Seigneur, pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et il y a ce verset qui est central dans la parole, dans le livre des Actes, un petit peu au début de l'Église, telle qu'on connaît aujourd'hui l'Église primitive. Et il y a Pierre qui, vous savez, enflammé vraiment, il y a 3000 conversions. Merci ma chérie, c'est super sympa. Il y a Pierre qui est enflammé, le Saint-Esprit vient de descendre et il se lève comme ça et il prêche cette prédication où il y a 3000 personnes qui viennent à Christ, les amis, c'est ça l'Église. Souvent, vous savez, les amis, on est dans notre Église, on est peut-être dans des contextes un peu plus restreints, on vient, on va à l'Église le dimanche, on fait ça, presque ça devient parfois malheureusement une routine. Mais les amis, oui, c'est bien cette régularité, c'est bien ce qu'on vit, je ne veux pas cracher dessus, mais regardez que dans le livre des Actes, alors que le Saint-Esprit est tombé sous la forme de flammes, de flamèches, ils ont été transformés, changés, se sont mis à parler dans nouvelles langues. Et là, Pierre, au moment où il fait, je pense qu'il ne pouvait pas retenir ce cri, cet appel du Seigneur à transmettre ce qu'il venait de se passer quelques jours avant avec Jésus sur la croix, et bien 3000 personnes sont ajoutées et l'Église naît pas dans une galère, pas dans quelqu'un qui essaye de démarrer, l'Église naît de manière glorieuse et bien sûr l'Église va terminer de manière glorieuse aussi au moment des noces de l'agneau et du retour de Jésus-Christ sur la terre. Et Pierre, au creux de ce moment-là, prononce ces paroles qui sont tellement pour nous cruciales, acte 2:38, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et quand il parle du don du Saint-Esprit, je pense qu'il sait de quoi il parle. Lui-même vient d'être complètement visité, chamboulé. Les gens même, leurs contemporains qui étaient présents, pensaient même qu'ils étaient sous. Tellement, il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe. Et vraiment, ce verset est fort, je trouve. Il décrit avec synthèse et vraiment force le message de l'Évangile pour nous. Il y a ce... Ça me fait souvent ça, mais ce n'était pas du tout prévu dans mon message que je vous partage ça. Mais alors que je lis ce verset, il y a ce changer, ce mot changer. Vous savez, souvent on parle du mot repentance et on se dit « Ah, la repentance ». Et souvent, malheureusement, on se trompe un peu dans l'utilisation de ce mot repentance. C'est quelque chose de vraiment qui a un sens un peu lourd, négatif, de presque de punition. Alors que non, la repentance en grec, ça veut tout simplement veut dire changer. Changer de manière de penser, changer de manière de voir le monde. Et bien sûr, par conséquent, changer de manière de se conduire, d'être, mais c'est vraiment changer, c'est vraiment j'étais comme ça, la repentance, tac, je vois les yeux, je vois le monde avec de nouveaux yeux. C'est vraiment ça ce terme changer, repentez-vous, certaines traductions d'ailleurs disent repentez-vous, là c'est changer, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour que vos péchés vous soient pardonnés. Et c'est intéressant de voir que le salut, et c'est pas le seul endroit dans la Bible, il y a d'autres endroits dans la Bible où la décision de foi, parce que Hansa a parlé du moment où elle a été baptisée quand elle était bébé, et certains, il y a ce baptême qui existe et que beaucoup de frères et sœurs chrétiens à nous pratiquent, ce baptême pour les nourrissons qui correspond vraiment à un engagement de la famille vis-à-vis de Dieu. Le baptême d'aujourd'hui, c'est un petit peu différent, forcément. C'est un baptême d'adulte ou parfois ça peut être des plus jeunes aussi, mais en tout cas, c'est un baptême qui témoigne de la foi en Jésus. Et parce que souvent, les deux sont liés. Vous verrez dans la Bible, il y a cette chose de croire en Dieu, d'avoir cette foi, de placer la foi qui veut dire placer sa confiance en Dieu. Et c'est vraiment lié au baptême. Le baptême étant du coup une manifestation de l'ancienne vie. Je suis dans l'eau, je ne peux pas respirer dans l'eau. Il n'y a pas de vie pour les humains, en tout cas dans l'eau. Et je prends cette respiration, une image de cette nouvelle vie qui démarre avec Christ. Vous êtes d'accord avec ça? Super. Mais quand même, dans ce verset, les deux sont vraiment intriqués. C'est comme si, alors je ne pense pas que l'on ne soit pas sauvé si on n'a pas, par exemple, eu le temps de se faire baptiser après notre conversion, notre décision de suivre Christ, mais quand même, les deux sont liés parce que, comme je vous le disais à plusieurs reprises, je ne pense pas, et on ne pense pas que ce soit uniquement un symbole. Vous savez, parce qu'un symbole, ça peut, c'est joli, mais ça paraît un peu creux. Un symbole n'a pas de puissance en lui-même. Non, on prend plutôt ça comme un acte prophétique. Oui, j'ai placé ma confiance en Dieu. Oui, il m'a saisi. J'ai beaucoup aimé en ça plusieurs fois dans... J'arrête pas de te perdre dans ta... Ah, t'es là. J'ai beaucoup aimé dans ces temps de préparation où elle a souvent utilisé ces mots comme ça, où Dieu l'avait saisi, Dieu l'avait touché, rencontré, elle avait senti sa présence. Mais c'est comme si aujourd'hui, par ce baptême, c'était un acte prophétique qui était posé en suivant sa conversion et dire « Voilà, moi, j'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ, je suis un de ses enfants. » Et vous savez, souvent, quand vous prenez position, eh ben, ça vous permet d'être propulsé dans de nouvelles étapes, dans de nouvelles aventures avec Dieu. Et je crois vraiment que c'est pour toi comme ça, Hansa, aujourd'hui. Donc, merci Seigneur pour ce baptême. Et alors que je réfléchissais, je priais pour cette journée, Dieu m'a remémoré un autre passage dans 1 Corinthiens 10, que je vais vous lire, 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2, et qui parle d'un autre baptême, qui parle d'un baptême en Moïse. Alors ça peut paraître curieux, ce baptême est bien sûr à propos de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection et du salut pour ceux qui croient en lui. Mais il est aussi mentionné ce baptême de Moïse, donc je vous lis le verset de Paul, 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2. « Frères et sœurs, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer. » Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et vraiment, ça m'a parlé parce que si vous vous rappelez l'histoire ou si vous ne connaissez pas, mais dans le livre d'Exode, dans la Bible, il y a toute cette histoire du peuple hébreu qui est racontée où après s'être développé en Égypte, après, vous savez, les enfants de Jacob qui sont là, les 12 tribus, tout ça, le peuple grandit à une vitesse incroyable, il y a vraiment la faveur de Dieu. Et malheureusement, au gré des changements de Pharaon, il y a vraiment ils sont esclaves, quoi. Ils deviennent esclaves. Ces choses, le temps de Joseph et de toutes les belles choses qui sont passées au temps de Joseph est oublié et le peuple devient en esclavage, en captivité en Égypte et ils sont forcés, quoi, à faire certaines choses et impossible de faire d'autres choses. Ils sont vraiment en esclavage. Et vraiment, cet état d'esclave, c'est vraiment une image pour nous aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui nous rappelle comment nous étions sans Dieu. Nous aussi, sans Dieu, on est esclave du péché. On est esclave du péché, on n'est pas libre. Il nous manque vraiment quelque chose de central, plus que dans notre vie, en nous, dans notre être, quoi. Et puis bien sûr, vous savez, la suite du passage, Dieu se choisit un homme et par des circonstances extraordinaires et d'ailleurs c'est de ça que je voulais parler en tant que premier point parce que ça m'a fait penser à ça aussi ce passage de Moïse. Vous savez que du coup cette persécution des Hébreux conduit le pharaon à demander l'exécution de tous les garçons et de panique la maman de Moïse bien le met dans un panier d'osier. Je ne sais pas si c'est dans la Bible qu'il est en osier, mais c'est toujours comme ça qu'on le présente, dans un panier, en tout cas quelque chose qui flotte. Et elle le met, si c'est un panier, hein, c'est bien un panier. Et, pour les théologiens parmi nous, je ne veux pas faire d'erreur. Y a cet abandon, pas abandon délibéré, mais elle laisse partir son fils comme ça sur les eaux. Et bien sûr, ce fils est recueilli, la fille de Pharaon. Et ensuite, il retourne avec sa famille quelques années pour être nourri. Mais dans sa jeunesse, toujours, il revient avec la fille de Pharaon, là vraiment où il est adopté. Et bien sûr, vous savez que Moïse veut dire sauver des eaux. Il grandit dans un contexte royal. Alors que tout son peuple est en captivité, ils sont tous esclaves. Lui, Dieu le choisit pour être élevé à la cour royale d'Égypte de l'époque. Et du coup, son état d'esprit, je pense, est complètement transformé, alors qu'ils sont tous dans la privation, dans le travail forcé, tous ses frères, ses sœurs du peuple hébreu. Lui grandit dans le luxe, lui grandit dans l'autorité. Il se voit certainement confier des fonctions. Il a une haute autorité. Il fait partie de la famille royale parce qu'il a été adopté dans cette famille royale. Et ce qui m'a marqué, ce qui m'a fait penser à Hansa par rapport à ça, c'est cette histoire, vous savez, ce magnifique miracle que Dieu a fait alors qu'elle était bébé, alors que l'ennemi a essayé de la reprendre, de priver de vie ce petit enfant. Eh bien non, Dieu est intervenu. Et voilà, c'était ça mon premier point, vraiment la chose que j'ai envie qu'on retienne aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas avec Dieu de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. La logique, les circonstances peuvent nous conduire et le déroulement logique des choses pourrait souvent conduire à un malheur, et malheureusement il y a des malheurs dans le monde dans lequel on vit, dans la vie que l'on mène, mais il se trouve que Dieu est souverain, et quand lui le choisit, et bien sûr il est bon, il aime prendre soin de ses enfants et même de ceux qui ne le connaissent pas, il se trouve que souvent les choses ne tournent pas comme elles auraient dû tourner logiquement. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Et la volonté de Dieu était que Hansa vive, qu'elle soit parmi nous aujourd'hui, et qu'elle vive cette vie merveilleuse avec sa famille, son mari, ses amis. Eh bien, la même chose pour Moïse. Sa volonté était de libérer son peuple. Il a dit, ben non, ce petit qui flotte, eh bien, ça va être par lui que je vais libérer mon peuple. Et il y a tellement d'exemples comme ça, d'événements qui vont contre le cours normal des choses. Je me rappelle, Jonathan, je ne sais pas s'il est toujours dans la salle, le témoignage qu'il nous a donné il y a quelques jours, Jonathan, et par la suite, il nous a montré cette vidéo sur WhatsApp, pour ceux qui l'ont vu, de tous les médicaments qu'il devait prendre à cause de son asthme et de son eczéma. Et voilà, le matin, je prenais ça. Le soir, je prenais ça. Si je ne prenais pas ça, j'étais mal. Et même, il nous racontait de l'angoisse qu'il pouvait avoir au moment du coucher, parce qu'il n'arrivait tout simplement plus à respirer, il avait peur de partir dans la nuit. Mais il se trouve que par la prière d'un ami et bien sûr par la puissance de Dieu, Dieu est intervenu et qu'aujourd'hui il n'a plus à se servir de tous ses médicaments, de toutes ces crèmes qu'il se mettait, il n'a plus d'eczéma, son asthme a disparu. Et vous savez, parfois on entend parler de miracles, on voit des choses sur internet et il y a des super choses sur internet, mais quand c'est un frère au milieu de vous qui vous raconte, qui vous prouve, il nous a montré même ses bras là, ce qu'il avait et comment il est aujourd'hui, voilà, parce qu'avec Dieu il n'y a pas de fatalité. Et c'est aujourd'hui, si tu vis une situation que tu as l'impression qu'elle est inextricable, et c'est dur parfois la souffrance, c'est dur. Moi, c'est facile de dire ça derrière le micro, mais chacun, on passe par des temps où c'est plus difficile. On est là, on est parfois seul à expérimenter ces choses. Mais sache et crois-le, et c'est pas moi qui te le dis, c'est le Saint-Esprit qui te le dit et qui te le dit dans ton cœur aujourd'hui. Avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Alors si tu vis, si tu es au milieu d'une saison comme ça, tourne-toi vers le Seigneur, crie à lui. Il va entendre ton cri. Il n'y a aucune prière que le Seigneur n'entend pas et il répondra parce qu'il est bon, parce qu'il est bon. Merci Seigneur. Et du coup, on a chanté plus fort que l'incrédulité. Ça peut tellement être notre tendance humaine. On a beau être sauvé, notre esprit a beau être régénéré, malheureusement, on a quelques mauvais réflexes de notre humanité et cette incrédulité parfois, ou même on va entendre des témoignages de gens guéris comme ça, et il y a toujours cette petite voix en nous qui va dire « Mais est-ce qu'il a vraiment été guéri ? est-ce que, moi je le connais pas ce Jonathan, est-ce qu'il a pas fait exprès, est-ce que c'était ses médicaments, c'était pas les médicaments, ou est-ce qu'il est vraiment guéri, est-ce que maintenant, et vous savez même l'ennemi des fois nous fait ça à nous directement. Moi j'ai eu la chance aussi d'être guéri miraculeusement quand j'avais 13 ans d'allergie, j'ai reçu l'onction d'huile comme la parole de Dieu, d'appeler les anciens, de faire l'onction d'huile, j'ai été guéri du jour au lendemain, j'avais des graves allergies sur mon corps, je nageais, je faisais de la compétition, on était obligé de me sortir de l'eau, que je reprenne mon souffle, j'avais comme ma gorge qui gonflait, tout ça c'était terrible. Dieu m'a guéri pareil, vraiment, et du jour au lendemain c'est parti. Vous savez, des gens parfois vont vous dire, ah mais les allergies ça va, ça vient, oui c'est vrai, les allergies parfois ça va, ça vient, il se trouve que moi j'ai plus, mais parfois je vais courir, j'aime bien courir, et j'ai chaud et tout, et je sens des mini grattements qui viennent me voir. Et c'est comme, je vous l'ai déjà raconté pour ceux qui sont de cette église, mais c'est comme si je sentais parfois l'ennemi qui venait me... Mais est-ce que vraiment Dieu t'a guéri? Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu n'es pas un peu... Et cette incrédulité qui essaye parfois de nous reprendre. Et là, tout de suite, mon réflexe maintenant, et je vous le promets, à tous les coups ça marche, je proclame, je dis non, je sais que le Seigneur m'a guéri. Alors Satan, tu t'en vas, tu me laisses tranquille, je sais que je suis enfant de Dieu, je suis béni et j'ai été guéri. Il y a cette incrédulité, il peut y avoir cette déception qui peut venir même d'épreuves, de douleurs, de blessures qu'on a eues dans la vie, de scepticisme, de peur parfois qui peuvent venir en nous. La peur, comme l'ennemi aime utiliser cette chose-là pour nous priver de notre héritage. Mais les amis, avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Comme pour Moïse, avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Et comme pour Moïse... par la mort et la résurrection de Jésus, par notre acceptation de ce qu'il a fait pour nous, par notre esprit qui est régénéré, par notre la vie éternelle, comme la parole dit, qui nous est offerte en Christ, eh bien, nous avons une nouvelle identité. Et un petit peu comme Moïse qui a été transplanté dans cette famille royale, Dieu nous a adoptés. Dieu nous a adoptés. Une Bible. Est-ce que tu peux me chercher, s'il te plaît, 1 Jean 3, verset 1. C'est vraiment... on prenait un temps de louange en famille tout à l'heure, et c'est le verset que j'avais pour vous. J'ai oublié de me le marquer, mais j'ai vraiment envie de vous le lire dans les vrais, les bons termes. Parce que nous avons été adoptés, comme la Bible dit. 1 Pierre 2, verset 8. Merci. 1 Pierre. 1 Jean 3, pardon, verset 1. Voyez, voilà, voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas reconnu le Christ. Et quand on reconnaît le Christ, quand il y a cette démarche qui est faite, eh bien, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et certes, c'est un changement de statut. On devient enfant de Dieu. Mais comment on devient enfant de Dieu? Par l'amour du Père qui nous a aimés. Et le Père ne nous dit pas simplement « tu es mon enfant ». Non, il nous le prouve par son amour. Et tous nous ici qui avons des enfants, bien sûr, il y a l'état civil qui dit que ce sont nos enfants. Mais je pense qu'avant l'état civil, il y a cet amour sincère, cet amour qui vient des tripes quand on est parent pour nos enfants. Et c'est pareil avec le Père et toi aujourd'hui cet après-midi. Le Père ne te dit pas « Ah, c'est bon, tu étais mauvais, maintenant tu es bon, grâce à mon fils, c'est bon, tu es mon fils, allez, on passe à autre chose. » Non, le Père te prouve ça, qu'il déverse son amour en toi. Et que toi, non seulement tu sais que c'est ton Père, mais tu peux l'appeler mon Père. Tu peux l'appeler Papa, comme tu appelles ton Papa terrestre. Il est ton Père, il prend soin de toi. On est héritier, on n'est plus esclave, comme dit... ce passage dans Galates 4. « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils, et bien sûr fille. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Et c'est important, quand on se regarde dans la glace, de se dire « tu es enfant de Dieu ». La semaine dernière, je vous ai dit « regardez-vous dans la glace et prononcez ces paroles sur vous. Waouh, quelle créature merveilleuse !» C'est ce que le psaume 139 dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et bien aujourd'hui, je vous dis demain matin, regardez-vous dans la glace et vous pouvez vous dire à vous-même, tu es enfant de Dieu, tu es de sang royal. Le sang a été versé, vous savez, au moment des 10 plaies d'Égypte, de la 10e, le sang des agneaux qui a été mis sur les linteaux du peuple hébreu, et ils ont pu passer par ce fameux baptême de nuée et traverser cette mer parce qu'ils étaient maintenant sous ce sang qui était bien sûr qui préfigurait le sang de l'agneau, le sang de Jésus versé pour nous. Tu as une nouvelle identité, et c'est ce que le baptême dit. J'ai une nouvelle identité. J'étais mort, je suis dans l'eau. Je prends cette respiration de cette nouvelle vie dans cette nouvelle identité. Nous sommes différents, nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves, et c'est troisième chose. Donc comme je vous l'ai dit, premier point, pas de fatalité, retenez bien ça, pas de fatalité, pas de fatalité. Deuxième point, nouvelle identité royale. On est les enfants du roi des rois. Un petit peu comme Jésus, vous savez. Jésus, il n'avait pas commencé son ministère. Dans tous les évangiles, il y a le passage où Jésus est baptisé. Et alors qu'il est plongé et qu'il est dans le Jourdain, alors qu'il sort de l'eau, il y a une colombe. Il n'y a pas eu de colombe aujourd'hui. On s'est dit, est-ce qu'on amène une colombe ou pas? Non, je plaisante. Mais il y a cette colombe, l'Esprit de Dieu qui se manifeste sous la forme du commande qui vient sur Jésus. Et là, qu'est-ce que j'aurais aimé être là, présent ce jour-là? Une voix qui se fait entendre dans le ciel. Celui-ci et mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Jésus n'avait pas commencé à faire des miracles. Si, il avait peut-être fait des miracles en cachette chez lui, je ne sais pas, ranger sa chambre comme ça sans que personne... Je suis sûr qu'il avait essayé avant pour s'entraîner. Non, je ne sais pas, je plaisante. Mais en tout cas, son ministère, à proprement dit, n'avait pas commencé. Et pourtant, le Père l'affirme et dit, je mets tout mon plaisir en mon fils, alors qu'il n'avait rien fait. Et c'est pareil pour toi, mon ami, cet après-midi. C'est pas ce que tu fais qui va faire que Dieu va t'aimer plus. C'est qui tu es. Il a choisi que tu sois son enfant. Peu importe ce que tu fais. Et Ansel a dit, j'étais loin. J'avais l'impression de ne plus être la fille de Dieu. Est-ce que mes enfants, quand ils font des bêtises, quand ils mentent, elles ne sont pas très grandes, donc leurs bêtises ne sont pas très grandes encore. Mais est-ce que je dis, ah ben c'est plus ma fille? Non. Tu es enfant de Dieu. Aucune action que tu fais ne pourra empêcher cela. Il est comme ce père dans le fils prodigue, et ça m'a fait tellement du bien de repasser cette histoire avec Ansa l'autre soir. Ce père, le fils est parti, il a considéré son père comme mort, demandé son héritage, il est parti mener grande vie, il est allé faire tout ce que parfois on peut faire quand on est loin de Dieu dans notre vie. Et qu'est-ce qu'il faisait le père en attendant? Est-ce qu'il a dit « c'est plus mon fils, je l'oublie à tout jamais » Non. Le père, il fait quoi? Il le guette. Et jour après jour après jour, le père attend son fils, attend le retour de son fils, jusqu'au jour où le fils est tellement au fond du trou qu'il n'a nulle part où aller. Il est au bord de mourir de faim, on ne veut même pas lui donner la nourriture des cochons. Et il revient, et lui, dans cet état d'esprit d'esclave, justement, se dit « Ah, mais je vais travailler pour mériter l'amour de mon père. » Est-ce que c'est ce qui se passe? Son père, je pense qu'à l'époque, il était vêtu d'une robe, doit certainement soulever sa robe, courir vers lui, le voir arriver à l'horizon. Il le prend dans ses bras. Mon fils est revenu, et il tue le veau gras, il fait une grande fête. Le problème, c'est que ça crée pas mal de jalousie chez l'autre frère, mais c'est pas grave. Il dit, mon fils est revenu, on va faire une grande fête. Il lui renouvelle sa confiance, il lui donne cette robe blanche, il lui donne cette bague synonyme d'autorité, parce que jamais il n'a abandonné son fils. Il était dans l'attente que son fils revienne vers lui. Et même si tu te sens loin de Dieu cet après-midi, si tu te sens comme même parfois séparé de lui, sache que le Père t'aime et il te guette et il attend simplement que tu reviennes dans ses bras. Et j'ai aimé dans le témoignage d'Ansa qu'elle disait, elle avait beau être loin de Dieu, le Saint-Esprit, il était là en elle et il lui parlait. Et au bout d'un moment, elle n'a pas pu résister à cet appel de Dieu en elle. Parce que quand on donne notre vie à Christ, notre esprit est dégénéré, notre esprit et son esprit ne font plus qu'un. Et ça, est-ce que vous croyez que nous, êtres humains, on peut défaire cela? Dieu te donne le salut comme un cadeau. Ce n'est pas tes œuvres, aussi bonnes soient-elles, qui vont mériter le cadeau de Dieu, du salut pour toi. Alors cet après-midi, si tu es dans la peur, ne sois pas dans la peur. Le Père t'aime. Mais reviens vers lui si tu es vers lui. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça de faire la fête avec toi. Oh, merci Seigneur, c'est tellement beau. Et mon dernier point en 2 minutes sur ce baptême en Moïse, c'est cette liberté, cette libération. Le peuple d'Israël peut enfin quitter l'Égypte. À la fin des dix plaies, le pharaon n'en peut plus, quoi. Il y a même son fils qui meurt et il leur dit ben, allez-y, maintenant j'en ai marre, partez, quoi, partez. Et il les laisse partir, c'est dans des circonstances bien sûr dramatiques. Et derrière, il veut se rétracter, mais trop tard, il y a l'épisode du passage de la mer Rouge, ce fameux baptême. Il y a la nuée, bien sûr, qui représente la présence de Dieu qui n'a jamais quitté le peuple d'Israël. Ils sortent de là, et là, voilà, ils peuvent entamer. Et bien sûr, vous le savez, il y aura 40 ans d'égarement dans le désert, mais ils peuvent prendre le chemin de la fameuse terre promise. Et ils sont libérés, ils ne sont plus esclaves. Ils ne sont plus esclaves. Et c'est pareil pour toi. Si tu as placé ton confiance dans le sacrifice de Jésus pour toi, aujourd'hui, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Et franchement, quelqu'un de libre, les amis, ça doit se voir. Je parlais tout à l'heure des enfants. On voit qu'ils sont libres. On voit qu'ils n'ont pas peur du regard des autres. Ils dansent, ils sont heureux, ils sourient. Et nous, on est adultes, on est beaucoup plus sérieux, certes. Mais des fois trop. Mais je pense que quelqu'un qui est libre, ça se voit. Et parce qu'on a beau donner notre vie à Christ, devenir chrétien, vivre des belles choses avec lui, souvent, et l'ennemi essaye bien sûr aussi de nous, vous savez, de nous retenir, de nous dire des mensonges et même de nous priver, de nous voler ce que Jésus a acquis pour nous par son sang à la croix. Et il essaye de nous voler notre liberté. Et parfois, on est très bon, malheureusement, pour nous-mêmes redonner notre liberté. La liberté qui a été si chèrement acquise pour nous. Et parfois, vous le savez, c'est des choses très simples, ça peut être des addictions, parfois ça peut être la peur qu'on va laisser gouverner notre vie, parfois ça peut être la comparaison avec mon ami ou mon amie. Ah, mais elle est beaucoup plus belle que moi. Ah, mais elle, regarde, elle a pu se payer cette voiture. Ah, mais lui, regarde, il est beaucoup plus mince que moi. La chance qu'il a. Vous savez, ça peut être. Est-ce que ça nous fait du bien quand on pense ces choses-là dans nos cœurs? Parfois, ça va être des blessures aussi qui vont nous priver de liberté. Et on reparlait d'un ami récemment avec un témoignage extraordinaire. On faisait une journée d'évangélisation. Il se trouve que c'était le temps du repas. On était assis chez Sam et Marion. Et je parlais avec cet homme qui s'est retrouvé assis à côté de moi et qui me disait, c'est fou, parce qu'aujourd'hui, il habite à Toulouse, je crois. Mais il me dit, tu sais, quand j'étais petit, j'habitais à Montélimar. Et j'allais dans une école qui se situe, et littéralement, l'école se situait juste en dessous de la rue, de là où on prenait le repas. Et de la terrasse, on pouvait presque voir l'école. Et il me disait, ben, dans cette école, j'ai été martyrisé par mon instituteur. Il me racontait tous les sévices qu'il avait subis par cet homme. Et c'était un homme brillant qui avait fait du coup des études, vous savez, je pense par compensation, il s'était jeté à corps perdu dans les études. Et il avait laissé ces études-là, je ne sais plus quel métier il faisait, mais quelque chose de vraiment très intéressant. Et il était devenu instituteur. Et il m'avait dit, ben voilà, je sens que Dieu m'a guéri. Et c'est comme si, en devenant instituteur, il pouvait racheter ce qui lui avait été fait. Et comme si, voilà, l'ennemi avait essayé, au travers de l'école, de briser cet homme. Et ben non seulement Dieu l'a guéri de ses blessures, il me disait ça avec la paix dans son cœur, plus d'amertume, plus de douleur. Mais en plus, lui pouvait transmettre et quelque part réparer ce que cet homme avait mal fait pour lui. Parce que c'est ça, les amis. Quand on est libéré par Jésus, tout peut changer. Et refusons, les amis, d'être maintenus en esclavage. Si tu as des peurs, si tu vis des circonstances où tu te sens oppressé, il faut absolument refuser cela. Tu es enfant de Dieu. Tu es un sacerdoce, un appel royal. Tu as l'autorité, comme cette bague du Fils prodigue. Dieu t'a donné autorité pour refuser tout ça, pour guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, comme la parole dit, mais aussi pour refuser cet esclavage dans lequel l'ennemi essaye. Et c'est pour ça que j'ai aimé quand on a chanté ce chant, j'élève un alléluia, parce que voilà notre réelle nature d'enfant de Dieu. Devant l'adversité, elle ne succombe pas et elle ne laisse pas tomber, non, elle prend l'arme de la louange, de l'adoration et toutes les autres armes que le Seigneur nous donne, l'épée de l'esprit, le casque du salut, le bouclier de la foi, toutes ces, et elle y va, quoi. Il dit non, Satan, la mort a perdu. Jésus, par sa mort, sa résurrection, a mis la mort en spectacle. Il a dit, voilà, L'ennemi a cru avoir vaincu et il s'est relevé. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau. Et pour l'éternité, le monde a été changé. Et pour l'éternité, ton cœur, ta personne a été changée. Si tu es enfant de Dieu, refuse d'être maintenu en esclavage. Et on finit là aujourd'hui. On finit là aujourd'hui. J'avais vraiment à cœur, Benjamin, est-ce que tu peux venir ? J'avais vraiment à cœur qu'on finisse, merci Benjamin, si tu peux aller au piano. J'ai juste à cœur qu'on finisse en priant, parce que c'est super de dire toutes ces choses. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est bien que vous aimiez ce que je dis. Peut-être vous n'aimez pas, peut-être vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs. Mais c'est surtout le Saint-Esprit maintenant qui parle à mon cœur, qui parle à ton cœur. Et si tu as senti cet après-midi le Saint-Esprit vraiment te parler, peut-être il y a des situations qui sont revenues à ta connaissance où tu te dis ben là je suis pas libre là. Là à mon travail je vis des circonstances difficiles et je sens que ça me prive de ma joie. Là dans ces circonstances familiales il y a des problèmes relationnels et je sens que ça me prive de ma joie, ça me prive de ma liberté, ça me prive d'être qui Dieu m'a fait. Eh bien, c'est pour toi aussi cet après-midi. Si tu sens que voilà, ta joie a été volée, ta paix a été volée, tu es dans l'angoisse. Tout à l'heure, Ansa nous a parlé d'angoisse. Si tu te sens angoissé, que tu ne sais pas de quoi demain sera fait, peut-être c'est financier, tu es privé de ta joie et de la paix du Seigneur parce que tu as des problèmes financiers. Peu importe que ce soit, mais en gros, cet après-midi, tu ne te sens pas pleinement libre. J'ai vraiment envie de prier et on a envie de prier avec toi. Alors si c'est toi, lève-toi rapidement, juste comme un signe de voilà, dire bah oui Seigneur, cet après-midi, je veux recevoir ta bénédiction et je veux avancer comme quelqu'un qui est libre. Pas de, vous inquiétez pas, j'ai simplement envie qu'on prie ensemble. Alors, si c'est toi cet après-midi, lève-toi simplement et puis on va prier ensemble. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui se lèvent. C'est pas magique de se lever, c'est pas magique d'avoir un joli piano. C'est juste d'autoriser le Seigneur à venir travailler dans ton cœur. Vous savez, dans Apocalypse, il y a ce verset qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. » Le Seigneur ne te forcera jamais. Il frappe à la porte de ton cœur et il te dit « Si tu veux que je vienne mettre mon amour dans ton cœur, ouvre la porte de ton cœur. Et là, je vais rentrer. Et là, je vais souper avec toi, comme la parole le dit. » Amen, Seigneur. Ben, Seigneur, voilà. Et si vous ne vous êtes pas levé, mais qu'il y a des gens autour de vous qui se sont levés, je vous invite simplement, comme un signe de prière pour eux, à étendre vos mains vers eux. Et on va prier pour eux, on va les bénir dans le nom de Jésus. Jésus, je te remets toutes ces personnes. Tu vois qu'elles ont ce courage de répondre à cet appel et de dire, ben oui, en ce moment, je me sens privé de liberté. Il y a des choses qui me retiennent. Ça peut être la maladie, ça peut être des circonstances, des relations, des choses qui me retiennent. Je suis privé de ma joie. Je suis privé de ma paix. Tout ce que tu as acquis pour moi à la croix, Seigneur, c'est comme si je ne vivais pas la plénitude. Il y a la parole qui dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et peut-être cet après-midi, tu as l'impression qu'il n'y a pas ces fleuves d'eau vive, qu'il y a simplement un tout petit ruisseau. Mais le Seigneur veut qu'un fleuve d'eau vive jaillisse de ton sein, que tu vives l'abondance de son salut. Eh bien, cet après-midi, sois béni. Vous savez, le mot « salut » en grec veut dire « sauver, guéri, délivré ». Il est utilisé dans la Bible pour les trois significations. Alors cet après-midi, si c'est toi, eh bien dans le nom de Jésus, tu reçois ce salut complètement, Seigneur. Tu es cet après-midi sauvé, tu es guéri dans le nom de Jésus. Parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et cet après-midi, tu es aussi délivré. Dans le nom de Jésus, je proclame la liberté, Seigneur, pour ceux qui se sentent captifs cet après-midi. La liberté des enfants de Dieu. Et maintenant, le Seigneur vient et te délivre, touche ton cœur. Et peut-être que ça va nécessiter un processus. Peut-être que seul dans ta chambre avec le Seigneur, tu vas ouvrir sa parole et tu vas dire « Seigneur ». Et tu vas pouvoir faire ce travail avec lui, dire « Bah oui, voilà, je me suis senti à travers de ces circonstances sali, je me suis senti privé de quelque chose que tu m'as donné. Viens guérir mon cœur, Seigneur. Et le Seigneur vient guérir ton cœur maintenant. Là où tu te trouves, il te voit parce que tu es son enfant. Là où tu te trouves, il te voit. Il te voit, il te rencontre. Il te bénit. Il vient te faire du bien. Et Seigneur, je proclame qu'il n'y a aucun maintenant endroit trop sombre où tu ne puisses pénétrer dans les cœurs de mes amis cet après-midi. Tu viens, tu les guéris. Tu les sauves, tu les délivres dans le nom de Jésus jusqu'à ce qu'ils puissent ressentir à nouveau cette paix, ressentir à nouveau cette joie être capable dans un moment où ils se sentent mal d'élever ton nom, d'élever un Alléluia. Et là, Seigneur, tu viens et tu les rencontres, Seigneur, parce que tu sièges au milieu des louanges de tes enfants, Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te remercions. Nous te remercions dans le nom précieux de celui qui est mort et qui est ressuscité pour chacun d'entre nous, Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu as envie de prier quelques minutes encore, on va être plusieurs devant. On est disponible si vous voulez partager quelque chose qui est sur votre cœur, quelque chose de lourd, ou prier même pour un besoin physique. On est disponible. C'est toujours une joie de pouvoir prier les uns pour les autres. Donc venez, ne vous privez pas de la grâce de Dieu comme la parole le dit. Et puis sinon, vous pouvez, voilà, si vous recevez la prière, ne vous arrêtez pas. Et sinon, on va simplement arrêter la partie intérieure de ce culte et pouvoir tous se diriger dehors où il y a un apéritif qui est prévu pour nous par les amis et la famille de Noménie. Donc encore une fois, un grand merci. Un grand merci et à bientôt, à la semaine prochaine pour les habitués de Connect. Les autres sont bien sûr les bienvenus. Soyez bénis les amis, soyez bénis, vous êtes précieux, vous êtes précieux.